Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Chers auditeurs, je suis très heureux aujourd'hui de reprendre ma chronique. Elle portera sur Québec, Ottawa et Paris. Ceux qui ont bien connu le Québec et le Canada dans les années 1960 et qui visitent régulièrement les deux nations peuvent apprécier aujourd'hui l'ampleur du chemin parcouru. Deux livres publiés récemment permettent d'en mesurer les nombreuses avancées. Le premier s'intitule « Ils sont fous ces Québécois » aux éditions du Moment 2010 et il est signé par Géraldine Vossner, la correspondante politique de plusieurs médias français dans la belle province, et il traite essentiellement du Québec actuel. Le propos se veut branché, insolent, sympathique. L'auteur n'hésite pas en effet à balancer quelques vérités. On peut entre autres considérer ce livre comme une sorte de manuel pour les jeunes Français ou les jeunes francophones désireux de s'installer au Canada. Ses chroniques savoureuses sont plus tournées vers les aspects sociétaux que vers la politique avec un grand P. Le second livre, écrit par Gilles Duguet, s'intitule « Le triangle Québec-Ottawa-Paris » et c'est aux éditions Septentrion 2010. L'auteur nous offre une fresque de l'histoire de son pays grâce à ses deux essais rédigés l'un par une Française de 32 ans, Géraldine Vossner, l'autre par un ambassadeur à la retraite, Gilles Duguet. Nous pénétrons dans deux mondes complémentaires. Commençons par présenter celui de Géraldine Vossner, dont la découverte du Québec remonte à peu de temps. C'est bien sûr une, comme on le dit avec humour, une maudite française, fin des guillemets, descendante de ceux qui ont abandonné en 1763 le Canada. Le reproche ne disparaîtra pas de sitôt. Dans ces 10 chroniques qui sont dans l'ensemble enlevées, l'auteur appelle un chat, et nous fait toucher du doigt les réalités de cette société en pleine évolution, on ne soupçonne jamais assez en France, ni l'énergie, ni la détermination. Le chapitre, justement intitulé « Les maudits Français », entre guillemets bien sûr, souligne, non sans humour, la susceptibilité de nos cousins québécois, accentuée à l'occasion par les maladresses de certains de nos compatriotes qui croient tout connaître. Le député français Pierre Laborde se souviendra longtemps de sa gaffe, voire la page 261 du livre de Géraldine Vossner, en ayant voulu étaler sa science du parler québécois devant le Premier ministre Jean Charest. Attention, voyageurs venus d'Europe ou d'ailleurs, de ne jamais utiliser des mots ou des formules du cru sans être certain d'en connaître le sens exact. Comme le souligne avec raison Géraldine Vossner, la paix des relations est à ce prix. Jean-Pierre Raffarin, un politique pourtant plutôt habile, s'est fait coincer en proposant un dessin pour le 400e anniversaire de la Fondation de Québec. Il représentait un corps de vache et une tête de caribou. L'animal hybride baptisé, croyez-le ou non, Vachibou, était censé symboliser le lien unissant les terroirs normands et québécois. Aïe, aïe, aïe. Lors de la présentation du symbole, les personnalités du Nouveau Monde ont éclaté de rire. Le verdict est tombé, c'est un beau geste, mais il y a place à amélioration. Jean-Pierre Raffarin est parti, paraît-il, en boudin. Depuis, on n'a jamais plus entendu parler de Vachibou. De son côté, Fadela Amara, en bon soldat, désireuse de visiter les quartiers difficiles de Montréal, a été estomaquée en découvrant le côté paisible et plutôt agréable de ces territoires, à l'occasion troublée par le jet d'une canette de bière ou le vol d'un portefeuille. Visiblement déçu, l'intéressé a déclaré « Nos situations ne sont vraiment pas comparables ». Un personnage haut en couleur, apprécié des uns, critiqué par d'autres, apparaît dans les deux livres choisis. Il s'agit de la fameuse Louise Baudouin, mélange nordique d'une Ségolène Royale et d'une Martine Aubry, l'une des passionnarias du Québec, à l'imperfide comme Philippe Séguin, aimait la recevoir. Reçue, elle l'est toujours par le socialiste Michel Rocard. Géraldine Vossner évoque cette femme qui a consacré sa vie à défendre la cause souverainiste avec une énergie, je cite, « insensée », imposant sa présence des salons de l'UNESCO à ceux de l'Élysée, notre chroniqueuse, toujours attentive aux nouvelles susceptibles de faire jaser, d'ajouter que Louise Baudouin a été fort choquée lorsque le président Nicolas Sarkozy a plaidé publiquement en septembre 2009 pour un Canada uni. Il faut dire que dans les milieux politiques, tous les coups sont permis pour que l'on fasse parler de soi. Bien renseigné, le président français en a vu d'autres. Autant reconnaître que Géraldine Woestner a écrit un livre sans prétention, amusant et plein de vérité. Lisez entre autres, chers auditeurs, les chapitres sur, je cite, « Mon pays c'est l'hiver »,« Tu veux-tu faire du sexe ?»,« Culture et moi », »,« Des tucs et des hommes », en proposant un tas de petites histoires alléchantes, l'auteur éclaire le Québec d'aujourd'hui qui s'est modernisé de façon étonnante dans de nombreux domaines. Venons-en à présent à l'essai de Gilles Duguay qui cherche à éclairer de façon méticuleuse le triangle Québec-Ottawa-Paris. Force est de constater que les multiples luttes, éclats, divergences et fâcheries qui ont eu lieu entre les trois capitales leur ont permis finalement de construire de meilleures relations et de se positionner sur de nouveaux marchés. Dans cette analyse, nous ne nous intéressons qu'à l'époque moderne, car la matière proposée par l'auteur est considérable. Avec une connaissance très pointue des faits, Gilles Duguay éclaire, par exemple, les relations entre Jean Charest, le premier ministre libéral actuel du Québec, évidemment décrié par les souverainistes, et le président Nicolas Sarkozy, ami personnel, on le sait, du grand financier canadien Paul Desmarais. Le personnage respecté de Paul Desmarais symbolise le clivage entre souverainistes et fédéralistes. Pour simplifier, grâce à la lecture de cet ouvrage, rappelons que les francophones québécois sont divisés en deux groupes, ceux qui veulent instaurer un État indépendant et ceux plus nombreux actuellement en faveur d'un fédéralisme amélioré. Paul Desmarais est un des chefs incontestés de ce deuxième groupe. La très solide amitié qui unit Nicolas Sarkozy et Paul Desmarais est évidemment peu appréciée de certains souverainistes, lesquels croient à tort que le président français méconnaît le Québec et ne le voit qu'à travers la vision de son ami Desmarais. En vérité, les divergences résultent surtout de l'opposition entre une pensée libérale et une pensée socialiste. Il faut comprendre que le président français est un homme qui refuse le surplace et le statu quo. À la fameuse formule du ni-ni, non-ingérence, non-indifférence, il préfère sans hésiter se tourner vers le plus-plus. Si l'on en croit Gilles Duguay, qui pèse plutôt bien ses mots, pourquoi reprocherait-on à la France d'avoir su établir d'excellentes relations avec les fédéralistes d'Ottawa ? En quoi aujourd'hui l'amitié pour le Canada nuirait-elle à la fraternité établi avec le Québec depuis des lustres? Gilles Duguay, non sans habileté, insiste sur les arguments de chacun, vision libérale pour le président français contre vision socialisante du côté des souverainistes. Mais comme à présent au Québec, le premier ministre appartient au courant libéral, on comprend mieux pourquoi les souverainistes ont parfois la migraine, ils se sentent délaissés. N'auraient-ils cependant pas intérêt à faire évoluer leur vision ? Nicolas Sarkozy n'est pas de Gaulle, il a nettement plus d'affinité avec son successeur Georges Pompidou. Gilles Duguay s'étonne par moments que certains souverainistes s'immiscent dans les affaires strictement françaises. On appelle cela en bon français du tordage de bras. Il n'hésite pas à citer les propos indignes d'un Jean-Marc Léger sur le président français, page 581. Jacques Godbout, un proche des chefs souverainistes, esprit subtil, a plus d'une fois reproché à ses amis de parler à tort et à travers. Dans certains cercles québécois, comment peut-on s'étonner que le président français dise ce qu'il pense, surtout si ce qu'il pense est sensé, objectif, fraternel et dénué de tout sectarisme ? Gilles Duguay rappelle ce que l'on ignore trop souvent, c'est que depuis 2006, le Parlement canadien a accepté que le Québec soit perçu comme une nation, ce qui n'est que justice. Je cite, en fait, sinon en droit, le Québec est devenu un pays sur la scène internationale, co-souverain sur le plan interne canadien, ainsi que sur le plan international, écrit l'auteur, fin de la citation. De même, il nous apprend que Jean Charest, le premier ministre du Québec, a resserré comme jamais les liens avec la France, ce qui ne fut pas toujours le cas sous René Lévesque ou sous Robert Bourassa. Précisons que le premier était souverainiste, le second fédéraliste. D'autres premiers ministres du Québec ont eu, eux, une action bien plus positive avec la France, par exemple Jacques Parizeau de 1994 à 1995, Lucien Bouchard de 1996 à 2001, Bernard Landry de 2001 à 2003, trois souverainistes mais à différents degrés. Dans le cadre du gouvernement fédéral, de son côté, le premier ministre Brian Mulroney a reconnu en 1984 la légitimité de la relation spéciale Paris-Québec et su nouer des rapports d'amitié avec le président socialiste François Mitterrand. Souvenons-nous également de l'amitié certes tardive, mais bien réelle entre Jean Chrétien et Jacques Chirac, ce qui en étonna plus d'un à gauche comme à droite. Or, contrairement aux prévisions plus que pessimistes des souverainistes, Jean Charest n'a pas suivi les traces de Robert Bourassa, lequel avait quelque peu négligé les échanges franco-québécois. Gilles Duguay, analyste dans l'ensemble fiable du triangle, considère, on peut bien sûr ne pas être d'accord avec lui, que le droit du Québec d'occuper une place originale est aujourd'hui admis et reconnu. En outre, il considère que Jean Charest, fort de l'accord obtenu à l'UNESCO en 2007, autorisant le Québec à agir dans le domaine des relations internationales, partout où il pourrait choisir de le faire, à une liberté nouvelle essentielle. L'auteur rappelle encore que l'amélioration des relations entre la France et le Canada a commencé en 1981, lorsqu'un grand ami de Pierre Trudeau, l'ambassadeur Gérard Pelletier, a reproché à son pays de ne pas avoir de politique d'ensemble avec la France. C'est en vérité le voyage du Gérald de Gaulle qui avait terriblement refroidi les relations entre Paris et Ottawa. C'est, nous l'avons souligné, grâce à Brian Mulroney, que les relations redeviennent agréables. Elles se concrétisent lors de la tenue des deux premiers sommets francophones, celui de Paris en 1986 et celui de Québec en 1987. À présent, les meilleurs observateurs considère que les liens entre la France et le Canada ne peuvent que se solidifier et ne sauraient être remis en cause dans la mesure où la coopération franco-québécoise est excellente. 50 ans donc après le début de la Révolution tranquille, le Québec et la France se sont définitivement retrouvés. De même, grâce à l'effort de plusieurs personnalités de poids, le Canada et la France ont une relation très amicale. Il reste tout de même aux trois capitales à agir davantage pour mieux affirmer la francophonie. Gilles Duguay considère que les trois nations n'accordent dans l'ensemble pas assez d'attention à l'avenir de la francophonie. Ont-elles en effet la volonté d'engager la francophonie sur le chemin du succès? On peut en douter. Avec le budget actuel qui lui est consacré, il est difficile de réaliser des miracles. Avec Gilles Duguay et tant d'autres observateurs, on peut se demander, je cite, « Que sera la francophonie au XXIe siècle ?» Et qui en seront les aspirateurs et les animateurs ? Fin de la citation. Sur un tel sujet, en France, une certaine ambiguïté demeure. Les responsables parlent avec éloquence de la francophonie sans toujours concrétiser leurs propos et leurs bonnes intentions. Et la période est aux restrictions. Pour le Canada, on peut se demander si l'Afrique francophone et la francophonie sont encore des priorités. N'en déplaise à l'optimiste ambassadeur Duguay, je cite, « La situation des francophones est désastreuse à Ottawa », a récemment déclaré Jean-Paul Perrault, le président d'un organisme de promotion du français. Si bien que le commissaire fédéral aux langues officielles s'apprête à tester le niveau de français dans les services municipaux, les hôtels, les restaurants et les commerces au sein même de la capitale. Précisons encore que deux francophones viennent de faire condamner Air Canada pour défaut de bilinguisme. Une honte. Ayant le dos contre le mur, le Québec est probablement l'État qui essaie de réagir le plus, mais a-t-il les moyens de sa politique ou de son ambition? On peut en douter. En terminant cette chronique, ne cachons pas le dilemme de l'Organisation internationale de la francophonie pour s'ouvrir encore plus sur le monde et renforcer les volets culturels et économiques, l'organisation devrait disposer de plus de ressources et proposer des actions plus offensives et plus originales dans certains secteurs. Ces deux livres fort intéressants dévoilent des univers méconnus en moins de 50 ans. Le Québec et le Canada ont réussi en grande partie leur métamorphose grâce, entre autres, au fameux voyage du général de Gaulle et à l'action des meilleurs politiques des deux côtés de l'Atlantique. Aujourd'hui, plus que jamais, les deux nations fondatrices du Canada moderne et la France ont intérêt à construire l'avenir qui passe aussi, ne l'oublions pas, par la grande aventure nordique. Je vous remercie, chers auditeurs, et je vous dis à la prochaine fois.